En réalité, j'hésite vraiment à intervenir parce que tout ce qui a été dit était tellement puissant que ça parle pour soi et qu'il n'y a plus trop besoin de rajouter encore quelque chose. Peut-être simplement de dire brièvement quatre points, mais en 3-4 minutes, sur la question « est-ce qu'on peut être féministe et être croyant ?» Et je crois qu'on a entendu quatre fois à quel point c'est pas seulement une option, mais c'est une responsabilité. Et les quatre, ou les groupes qui sont intervenus, ou les couples qui sont intervenus, disent quatre fois le sens de cette responsabilité. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter ça. Peut-être simplement pour dire qu'il a parlé bien clairement que le féminisme n'est pas quelque chose pour les femmes frustrées. Hein. Mon titre, c'est « Sortir le féminisme des stéréotypes ». Ce n'est pas une sorte d'option pour femmes frustrées, c'est bien la responsabilité d'aujourd'hui, de personnes individuelles et de couples, et ou de groupes d'amis ou de partenariats, pour parler en faveur de la libération des hommes et des femmes. On a bien entendu à quel point il s'agit de libération, et pas seulement libération sociale, mais spirituelle, comme ça a été dit. Et en fait, le premier texte féministe n'est pas du XXe siècle, c'est le Magnificat de Marie. Alors, je sais bien que Marie, dans nos cercles protestants, n'est pas véritablement le parangon qu'on met en avant, mais c'est bien le Magnificat qui est la subversion de toutes les injustices. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Donc c'est véritablement une entreprise de libération qui nous oblige, entre guillemets, au sens de responsabilise. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. On peut être non seulement féministe et croyant, mais il est de notre responsabilité de l'être. Mais quel féminisme? Ça, c'est le deuxième point. Est-ce que les féministes sont les pétroleuses, comme on les a appelées en France à la suite du mouvement de libération des femmes? Précisément, il existe de nombreux courants féministes et bien sûr, ce sont les extrêmes qui font souvent la une des médias ou des choses un peu spectaculaires. Mais en réalité, il y a un féminisme chrétien très constructif, très libérateur, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et ça a été souligné à quel point c'est important. J'ajoute que les églises ont été pour une fois en avance par rapport, comme vous avez dit, en général elles sont en retard. Elles ont été en avance pour le suffrage dans les églises. Il a précédé le suffrage politique. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les églises, mais en tout cas dans de nombreuses églises ce fut le cas. Il faut quand même le souligner. Et dès 1948, le Conseil œcuménique des églises a lancé tout un programme pour le partenariat des hommes et des femmes dans l'Église en donnant l'argument théologique, il ne peut pas y avoir l'unité des Églises et la réconciliation des Églises sans une véritable réconciliation des hommes et des femmes. Moi, je trouve ça extraordinaire. En 1948, on n'appelait pas ça le féminisme, mais en réalité, il y a un vrai mouvement qui s'est mis en place. Simplement, au Conseil œcuménique des Églises, sous la pression de la peur, et en fait c'est ça qui est toujours derrière, sous la pression de la peur, on a relégué après ces questions avec le titre « Question des femmes » au placard. Donc, question de femmes et de famille, et avec un niveau hiérarchique inférieur. Et là est le problème et notre responsabilité. Alors, troisième question, est-ce que les mouvements féministes ne sont pas trop idéologiques pour être compatible avec le christianisme? Pour moi, au contraire, en tant que croyante, je vérifie toujours où je suis pour me dire féministe. Parce que souvent, je suis taxée alors de féministe et on n'écoute plus ce que j'ai à dire en tant que théologienne. Et en réalité, la confession de foi chrétienne et le féminisme ne sont pas du tout incompatibles, mais sont au contraire une correction mutuelle. Et ça a été dit par plusieurs d'entre vous tout à l'heure. Au fond, ce que nous pouvons vivre dans la foi corrige ce que le féminisme peut avoir d'idéologique, de raide, de fermé à certains égards, ou de trop combatif ou de trop radical. nous avons un autre fondement qui est le fondement christologique et le fondement dans la foi, mais de l'autre côté, là où nos perceptions de la lecture biblique ou de nos églises sont trop fermées au déploiement des potentialités des hommes et des femmes, il est important que le féminisme le corrige. Et pour donner une expérience, le livre que nous avons fait, Une Bible des femmes, a été pour nous autres, nous n'étions que des femmes, ça ne m'était jamais arrivé de ne travailler qu'avec des femmes, parce que je suis née dans la mixité et je n'ai jamais eu de difficultés. Mais cette entreprise de femmes qui m'a fait connaître beaucoup d'autres chercheurs nous a permis de découvrir des choses dans le dialogue entre nous qu'on n'aurait pas soupçonné sur les textes bibliques. On a développé des choses assez incroyables et j'ai travaillé sur le texte de Marthe et Marie. Et pour moi, je n'avais jamais remarqué ce que Sylvie a souligné et Natalia, qu'il ne dit pas seulement « Marie a choisi la bonne part », ce que j'ai toujours mis en valeur, mais « Marie a choisi ». Donc le verbe « choisir ». Et tant Sylvie que Natalia ont souligné ce verbe « choisir ». Choisi la vie ou bien simplement « choisi ». Et ça m'est apparu en travaillant ce texte de Marthe et Marie. J'ai le droit de le choisir, mais j'ai aussi le droit de m'engager pour que les autres puissent le choisir. Et je considère que c'est ma responsabilité vraiment de chrétienne et de théologienne de défendre, de soutenir et de permettre que d'autres se déploient à cette stature de pouvoir choisir leur vie. Et c'est pas forcément une vie contre quelqu'un, mais c'est une vie à leur pleine mesure, de leurs compétences, comme Natalia l'a bien développé. Et je terminerai sur le quatrième point. On est parti en guerre contre le genre. Alors il y a énormément de théories du genre et pas une seule, comme les médias ou certains combats radicalisés l'ont fait supposer. Il y a énormément de théories, mais ce qui m'intéresse dans l'enjeu du genre, c'est que ce n'est pas uniquement une ligne féministe pour les femmes, en faveur des femmes, mais c'est pour permettre que les hommes également fassent leur propre chemin et en rapport avec leur histoire, leur culture, leur contexte. Le genre permet de réfléchir comment une culture a développé des modèles, comment elle continue à le faire. Et c'est pourquoi mon tout dernier point, très brièvement, c'est on n'a pas fini. On aurait pu imaginer, et le féminisme l'avait dit, on perdra le qualificatif féministe quand le combat sera arrivé à terme. Le problème, c'est qu'il recommence et qu'aujourd'hui, nous avons besoin tout autant de nous opposer à des modèles qu'on va nous dicter à nouveau dans des sociétés médiatiques, dans des sociétés de visibilité, les critères de beauté, les critères de performance qui sont ultra stéréotypés et peut-être par retour du refoulé ou par retour de ce qui a été combattu, on est à nouveau dans ce modèle, que ce soit pour la société ou que ce soit pour les hommes et les femmes à titre individuel. Le nombre de complexes et de douleurs et de souffrances de ne pas correspondre au modèle, aux critères de beauté ou d'intelligence, ça a été souligné par Sylvie. Et je pense qu'on a un énorme combat par rapport à ça. Ne pensons qu'aux émissions télé et à quel modèle on donne à nos jeunes pour être garçon ou fille, si on ne prend que ces catégories, c'est effrayant. Et on a là un travail et une responsabilité chrétienne. Donc en réalité, je crois que le féminisme est une responsabilité partagée au-delà des appartenances figées. Voilà. Donc merci de m'avoir permis de vivre cette expérience avec vous et on continue.